Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.
Louis Quentin, président de la FNAIM, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Alors ce matin s'est tenue la conférence de presse, conférence de presse semestrielle. Ça y est, c'est acté, 2025, c'est l'année de la reprise.
Oui, l'année de l'embellie où les volumes repartent à la hausse et les prix sont stabilisés, voire rappelés à connaître une légère augmentation en fin 2025, strictement égale à l'inflation. Voilà, plusieurs mois notamment de correction permettent aujourd'hui de l'affirmer et tout ça sous, la conjonction et la conjugaison de plusieurs facteurs. À la fois la baisse des taux d'intérêt, 8 baisses successives du taux de la BCE en un an qui ont permis aux ménages de reconstituer un pouvoir d'achat, une capacité d'emprunt. Et je l'ai dit, 1%, passer les taux de 4 à 3%, c'est 1% de baisse des taux d'intérêt. C'est finalement une augmentation de la capacité d'emprunt de 10% pour un ménage. C'est très très important. Et là, à la fois, cette baisse des taux d'intérêt conjuguée à la baisse des prix, parce que beaucoup de ménages ont dû baisser leurs prix pour pouvoir enfin vendre. Et l'ensemble de ces deux facteurs, et aussi sous l'effet d'une inflation qui a aussi corrigé les prix, permettent de reconstituer une capacité d'emprunt. Et enfin, nous retrouvons un taux de rotation du parc immobilier, c'est-à-dire le nombre de transactions rapportées au parc total de logements, qui redevient dans une normalité. Oui, le marché a retrouvé des couleurs, s'est stabilisé, et aujourd'hui ne demande qu'à être confirmé dans cette stabilisation. Mais simplement, nous sommes aussi dépendants d'un environnement politique, national et international. Et je dirais que les tensions internationales peuvent aussi faire courir une tension sur une inflation qui pourrait retrouver et avec une politique d'augmentation des taux. Et aussi pour les Français, c'est très important. L'immobilier, c'est un placement de long terme. Il faut de la confiance et de la visibilité. Or aujourd'hui, le spectacle politique auquel nous assistons n'est pas de nature à les rassurer. On a quand même eu en 2 ans 4 premiers ministres, 4 ministres du logement. On a eu également une dissolution de l'Assemblée nationale. On a eu une motion de censure. On a 11 groupes parlementaires sans majorité qui n'est pas apte à prendre les décisions qui s'imposent pour le logement des Français.
J'aimerais revenir sur la baisse des prix que vous évoquez. Alors, on l'a vu, hein, c'est France entière, il y a une moyenne, je sais quelques pourcentages.
0,6% France entière.
Oui, 0,6% France entière. On l'a vu, il y a des disparités. Fortement baissé dans certaines villes, moins dans d'autres. Bon, sur la Côte d'Azur, on ne va pas en parler, c'est à part. Hein, Côte d'Azur et station de ski, c'est à part. Concernant Paris, là, vous évoquiez donc certains quartiers peut-être qui n'avaient pas baissé leur prix et vous parliez peut-être d'un réajustement. Vous pensez sincèrement, alors que là les taux baissent, ont baissé, se stabilisent, on sait que mécaniquement les prix remontent, est-ce que vous pensez encore que les prix peuvent baisser?
Non, aujourd'hui les villes qui avaient le plus augmenté, et notamment Paris et les 10 premières grandes villes de France qui ont connu les plus grandes hausses, ont été les plus rapidement corrigées.
Lyon, Bordeaux.
Voilà, et aujourd'hui ces villes sont rentrées déjà il y a un certain temps dans une stratégie de stabilité, ont connu une forte correction. Mais il y a des améliorations qui restent encore à la traîne, je pense à des villes moyennes qui ont été notamment qui n'ont pas encore vu les prix corrigés, mais on reste encore sur une minorité. Aujourd'hui grande masse des grandes villes a vu corriger ses prix. Alors la correction des prix, il faut relativiser, qu'on dit moins 0,6% de baisse sur un an France entière. En réalité, on a 0,7% d'inflation. Ça fait en réalité 1,3% de baisse. Hein, voilà, parce que l'inflation, notamment, est appelée aussi à corriger les prix à la hausse. Donc, et quand on n'est pas à la hausse, il faut les cumuler en termes de baisse. Voilà, et je dirais, c'est tout l'effet magique d'une inflation notamment retrouvée, même si elle compromet le pouvoir d'achat des Français, mais de redonner une capacité d'emprunt et redonner une adéquation, une corrélation avec les prix.
Justement, vous parliez du pouvoir d'achat immobilier des Français, donc qui reprend des couleurs aussi. Les Français ont plus de pouvoir d'achat immobilier. Sur quoi vous vous basez? Sur quelle data vous vous basez pour calculer ça, justement?
Le pouvoir d'achat d'immobilier, il est mesuré par rapport notamment à une surface de logement qu'on peut acquérir et par rapport notamment au taux d'intérêt, au taux de financement. Et c'est là qu'on voit que la capacité d'emprunt des ménages...
Mais vous basez sur quoi? Sur la data des courtiers
Non, sur une data par rapport au prix moyen de l'immobilier. D'accord. Et les taux d'intérêt qui permettent de reconstituer dans la capacité de financement
et
d'emprunt.
Vous faites vous-même vos calculs?
Absolument.
C'est en interne. Question sur, justement, alors là, vous évoquiez les questions géopolitiques. Est-ce que vous avez peur, en tant qu'agent immobilier, là je vous parle, en tant que professionnel de terrain, est-ce que vous avez peur que ces tensions-là, avec ce qui se passe, le conflit Iran-Israël, ça perturbe les Français dans leur stratégie d'investissement? Bon, et aussi dans leur plan pour déménager, résidence principale.
Je crois qu'il y a deux situations qui peuvent être anxiogènes pour les projets. L'immobilier, c'est un projet de long terme, notamment on se projette sur une longue période. Les tensions internationales ne sont pas de nature à rassurer les Français, et surtout d'impacter notamment les dépenses militaires de la France, déjà estimées à 40 milliards dans le budget 2026 par Emmanuel Macron. Et également, notamment, l'instabilité politique n'est pas de nature non plus à rassurer. Les Français ont besoin de stabilité et de visibilité. Les Français aussi ont peur des mesures sur le logement, quand on voit aussi la taxe foncière prendre des augmentations importantes et non maîtrisées, qui n'est, elle, pas limitée à l'inflation. On peut s'interroger sur le poids fiscal des nouvelles mesures qui pourraient obérer le pouvoir d'achat des Français. Donc je crois qu'il faut de la stabilité, il faut générer de l'envie, il faut de l'enthousiasme. Mais aujourd'hui, notre pays n'est pas dans les meilleures conditions qui soient pour pouvoir réunir tous ces facteurs. Mais restons comme ça pour le moment, ne voyons pas la situation en noir. Je dirais chaque chose en son temps. La seule chose qui pourrait finalement plus fragiliser l'accession à la propriété des ménages français, c'est surtout les taux d'intérêt qui pourraient à nouveau connaître une augmentation. Voilà pourquoi nous, la FNM, on se battra encore sur la portabilité et transférabilité, qui est un mécanisme important visant à prévenir toute hausse des taux que nous n'aurions pas vu venir. Et c'est la raison.
Donc je rappelle à nos auditeurs, c'est que le propriétaire garderait son prêt en déménageant, en changeant de logement. Donc garderait le taux du prêt qu'il a négocié.
Imaginez demain si les taux passent à 7%, c'est possible. J'en ai connu à 17% dans l'histoire. À 7%, vous avez emprunté à 3 aujourd'hui. Eh bien, vous gardez le bénéfice de votre prêt à 3 et vous portez sur une autre acquisition.
Ça fait un moment que vous portez cette proposition. Dernière chose, on termine avec ça, le statut du bailleur privé qu'on attend tous avec impatience. Est-ce que vous pouvez nous rappeler positionnement de la FNAIM?
Je crois qu'on ne peut pas poser la question de la relance du logement uniquement sur le statut du bailleur privé. En réalité, on se rend compte que aujourd'hui, il est tout autant difficile d'être locataire que d'être propriétaire. En réalité, on voit que le nombre de propriétaires en France baisse considérablement. On est passé de 57,8 à 57% de propriétaires et finalement, 1% de propriétaires en moins, c'est 1% de locataires en plus.
Bien sûr.
Mais il faut jouer sur les deux tableaux, à la fois favoriser l'accession à la propriété et à la fois dynamiser l'investissement locatif. Mais l'investissement locatif, certes, il passe le statut du bailleur privé, ce n'est pas que de la fiscalité, c'est une révision d'un modèle d'ensemble. Mais il faut donner un avantage fiscal à l'investissement, mais pas uniquement dans le neuf. Il faut aussi que celui-ci intéresse l'ancien et de façon équitable. Et il faut aussi penser au nombre de passoires énergétiques auxquelles le marché est confronté.
Oui.
1 300 000 logements classés F et G d'ici 30 mois au 1er janvier 2028. Voilà, il faut éviter cette attrition quand on sait qu'un propriétaire sur 3 de passoires énergétiques souhaite vendre plutôt que rénover. Et c'est plus de 400 000 logements qui risqueraient de sortir du parc locatif là où nous en avons cruellement le plus besoin et là où nous sommes en incapacité à reproduire une œuvre de qualité.
Merci beaucoup, Luc Quintin.
Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.